France Inter.
Les deux destinations de ce dimanche sont des histoires d'installation. Celle d'une médecin du Lot-et-Garonne d'abord, qui ne brisera pas, elle toute seule, le désert médical de son département, mais qui peut-être a changé la vie de son village. Et puis celle d'une ville aussi, Raqqa, en Syrie, qui essaye de se réinstaller dans ce qu'elle a été, mais traîne derrière elle son passé de capitale de Daesh. Un futur très incertain dans les sables mouvants des enjeux stratégiques de la nouvelle Syrie. Deux histoires de reconstruction dans deux réalités aux antipodes l'une de l'autre.
Interception, Fabienne Sintès sur France Inter.
Mon docteur à moi, il est à Barsac, c'est celui de mon ami. Il est à 95 bornes.
95 km.
Ouais. On n'a pas de docteur, donc mon ancien, il a pris la retraite, donc on n'a plus de docteur. Bah, ce matin, vous n'avez personne, c'est le 15 ou...
Quelle galère, hein.
Ouais. Entrons d'abord à Feugarolles, avec Joël, qui enfin a un médecin généraliste. Nous sommes à mi-chemin entre Agen et Marmande, 1060 habitants, deux écoles, quatre cimetières, et plus de médecins jusqu'à cet été. Feugarolles a longtemps ressemblé à 87% du territoire français, désert médical. Les maires de France ont fait le calcul, près de 8 millions de personnes vivent sans généraliste à proximité. Un collectif de médecins propose de créer des maisons de santé de services publics. Une proposition de loi a essayé d'obliger les jeunes à s'installer dans ces déserts médicaux pour une durée limitée. On en est plutôt à essayer d'inciter les jeunes praticiens contre rémunération. Ça commence là, ce mois de septembre. Mais accepter d'habiter loin de la ville de son choix, embarquer toute sa famille derrière soi, tout construire en arrivant, qui peut le faire? Feugarolles a eu de la chance, son nouveau médecin a fait ce pari. C'est une femme, son premier été dans un désert médical, Anna Elverzo l'a accompagnée.
Et voilà, on vient d'arriver à Feugarolles. C'est un village de 1000 habitants, situé dans le Lot-et-Garonne. Là, c'est le rond-point. Donc là, on longe la départementale et c'est autour du rond-point, finalement, que se trouve le village. Et en fait, le village, c'est comme un village de passage entre deux grandes villes. Il y a l'église, une boulangerie, une pizzeria, un restaurant, le Portail Gascon. Et derrière, il y a une petite tour dans laquelle se trouve le pôle santé. J'ai rendez-vous avec le docteur Coralie Héroin-Gonzalez, qui s'est installé ici, dans le village, au mois de juin de cette année. Cabinet médical, docteur Coralie Héroin-Gonzalez. C'est un grand bâtiment, quelques marches à l'entrée. Et la porte est ouverte. Bonjour.
Bonjour.
Ça sent la peinture. Oui, ça sent le neuf. Les murs tout blancs. Et là, c'est la salle d'attente.
Bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois que vous venez voir le docteur?
Oui.
Ça a été facile pour trouver le rendez-vous ou pas?
Oui, sur Doctolib. J'étais contente, on n'a plus de médecin. Donc.
Vous n'avez plus de médecin?
Non, sur Brax, non. Il est parti à la retraite.
Ah, vous habitez Brax, c'est un village à côté?
Oui.
Et du coup, vous êtes restée sans médecin pendant plusieurs mois?
Presque un an.
Comment vous faisiez alors?
On ne faisait pas. Enfin, on allait à la pharmacie, on avait des petits... C'est de la bobologie, mais voilà.
Mais pour les problèmes un peu plus graves?
Ben, pour l'instant, j'en ai pas eu.
D'accord, heureusement.
J'ai eu... c'était un bon rhume, je crois, cet hiver. Et j'ai consulté par télécabine. Vous savez, dans les pharmacies, maintenant, il y a des télécabines. C'est du visuel.
Ouais. C'est pas pareil.
Ah non, pas du tout. Parce qu'ils vous auscultent pas. C'est impersonnel, quoi. C'est pas... Voilà. La machine qui remplace l'humain. On avait un bon médecin à Brax avant, à la vieille école, mais il est parti à la retraite. On l'a plus.
Et quand vous dites qu'il travaille à l'ancienne, ça veut dire quoi pour vous?
Chaque patient, il mettait du temps. On vous écoutait aussi. Il y a aussi les maladies, mais il y a aussi le psychologique, quoi, surtout à notre époque. C'est pas que. C'est un peu la famille.
Bon, ben, vous allez voir. Elle sera peut-être aussi de très bonne médecin.
Mais oui, oui.
En tout cas, j'ai l'impression qu'elle prend le temps.
Pour elle, voilà.
Votre prénom, madame?
Monique.
Vous travaillez dans quoi?
Je suis retraitée, là, depuis peu.
Et auparavant, vous faisiez
quoi? Laboratoire UPSA, l'industrie pharmaceutique.
Là, vous êtes venue pour un problème en particulier?
Non, pas particulièrement. Je veux avoir un médecin traitant, donc voilà.
Voilà. La porte s'ouvre. C'est le docteur Coralie Juan González. Elle est jeune, élancée, élégante, les cheveux longs, châtains, une robe longue. Elle a un grand sourire.
Merci de même. Au revoir.
Monique a accepté que j'assiste à la consultation. Allez, on la suit à l'intérieur.
12-8. Alors, est-ce que vous avez besoin d'autres choses?
Non.
Donc, on a fait l'ordonnance pour l'imagerie.
Non.
Le vaccin.
D'accord.
Donc, soit vous faites à la pharmacie, soit vous revenez me voir, il n'y a pas de problème. D'accord.
Ok.
Vous avez fait connaissance un peu aujourd'hui, c'est ça?
En général, quand c'est des rendez-vous comme ça, où c'est une première consultation, je reprends les antécédents de la patiente, où est-ce qu'elle en est au niveau des dépistages aussi, des cancers, de la prévention, les vaccinations, tout ça. On fait le point et puis on voit si la patiente elle a des demandes aussi, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses particulières.
Donc vous prenez un petit peu plus de temps peut-être?
Un peu plus. Oui, un peu plus. Quand c'est des premières consultations, je suis un petit peu plus en retard.
Je vous mets pas en retard alors. Je sors avec vous, Monique.
Oui, d'accord.
Oui.
Merci beaucoup. Merci, docteur.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il y a une dame qui s'est assise par terre dans la salle d'attente et qui a l'air d'aller mal. Apparemment, c'est une urgence.
Allez-y.
Voilà. Bon, comment ça s'est passé, Monique?
Très bien, parfait. Très, très bien.
Vous avez pu échanger un petit peu?
Énormément, c'est très bien. Elle est à l'écoute. Ça y est, j'ai mon médecin traitant. Je suis très contente, voilà. Et soulagée.
Je suis contente pour vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci. Madame Lydia, au revoir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une dame qui a été mal?
Oui, c'était l'urgence qui a appelé tout à l'heure. Donc, le docteur l'a prise.
Elle est avec vous, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je ne sais pas, moi j'étais en train de travailler et donc elle m'a appelée. Je pense que c'est une intoxication alimentaire, mais en même temps, j'en sais rien.
Heureusement qu'elle a pu être prise là en urgence.
Ah ben oui, sinon, je pense que je serais allée à Agen. De toute façon, c'est un truc qui manque. Hein. En campagne, un médecin, c'est compliqué. C'est très compliqué de se soigner.
Bon, ben j'espère que votre amie va...
J'espère que je ne vais pas devoir l'amener ailleurs ou faire, je ne sais pas... Bon, on verra.
On croise les doigts.
Oui.
Bonjour. Non, sa secrétaire.
Coralie Héroin González a 36 ans. Elle grandit en Bretagne, dans le Finistère, avec des parents pharmaciens. Elle fait d'abord des études d'ingénieur à Bordeaux, et puis elle change de voie et devient médecin dans le Lot-et-Garonne, un des départements les moins bien pourvus en généraliste. Elle enchaîne différents centres de santé avant d'ouvrir son propre cabinet. Et elle s'installe à Feugarolles avec son assistante médicale Elisa et à côté d'un infirmier, d'un kinésithérapeute et d'une sage-femme.
Une belle structure de santé pour les patients. On a mis un petit poteau pour indiquer infirmier, kiné, médecin, sage-femme. Sur leur porte, il va y avoir écrit porte 1. Moi, je suis porte 2. Et sur la porte de la sage-femme, porte 3. Le poteau n'est pas encore planté, mais...
Mais il est là.
Il est là.
Il faut que je mette ma plaque, je ne l'ai pas encore...
Elle est commandée, mais il faut que ça arrive.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Vous venez juste de vous installer.
Oui, oui, voilà. Oui. Là, c'est la troisième semaine. Et donc, en fait, les patientes, il faut qu'elles aillent là.
Là, c'est pour la sage-femme, Alix.
C'est ça.
Ok, Alix Cortex.
Super local ici, très sympa aussi. Donc, on est juste à côté.
Et vous connaissiez avant ou pas?
Avec Alix, oui, parce qu'elle travaillait au centre de santé de la Vardac comme moi. Et donc, quand on s'était rencontrés, on avait beaucoup accroché. On a toujours beaucoup aimé travailler ensemble et voulu vraiment faire quelque chose ensemble. Ils l'ont congédiée du centre de santé. C'était un petit peu du jour au lendemain. Donc, on a un peu profité de ça pour monter notre projet.
Mais pour quelles raisons ils l'ont congédiée?
Probablement parce qu'un centre de santé, il y a quand même une nécessité de rentabilité et que c'était probablement pas assez rentable financièrement pour le centre de santé. Ça coûtait trop d'argent, je pense. C'est aussi pour ça que j'ai pas continué à travailler avec eux. C'est parce qu'il y avait trop de décalage dans nos visions, trop de décalage dans nos manières de s'occuper des patients.
Qu'est-ce qui était si différent?
J'aime bien prendre mon temps pour les patients quand ils en ont besoin. J'aime bien proposer des prises en charge globales, faire du suivi. Et ça, c'était pas, selon moi, la manière dont je pouvais travailler en restant au centre de santé.
Bon, là, il y a ça, c'est le hall d'accueil.
Voilà la salle de consultation. Oui, il y a un petit coin pour les enfants, un tapis de jeu, une petite table basse.
C'était vraiment un truc qui était important pour moi quand je m'étais dit que j'allais ouvrir mon cabinet. Je m'étais dit que je voulais un grand espace avec plein de places pour faire un coin pour les enfants. Et je voulais pas que les parents mettent leur enfant sur le téléphone.
Viens, il y a votre fils qui est là.
Mon numéro 3. Coucou mon bébé. Et du coup, et mon bébé qui arrive pour son examen, ouais.
Ah voilà, voilà la petite famille.
Et mon mari.
Bonjour.
Bonjour.
Et parce que là, vous allez examiner votre enfant.
En fait. Exactement.
Oui. Alors là, vous l'avez déshabillé, il est en couche allongée.
Oui.
Il a quel âge?
Il a 9 mois. Et c'est un examen qui est obligatoire, c'est pour ça que vraiment je... Papa a amené des couches? Ah. Parce que vu l'odeur...
Alors cet endroit ici, vous l'avez conçu ensemble finalement tous les deux. C'est votre histoire, mais c'est aussi une histoire de famille, une histoire de couple.
Ouais. On a des amis qui nous ont fait visiter le local. À la base, c'était un lieu de stockage, quoi. Mais avec hyper de potentiel, mais il fallait tout faire. Il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait même pas les cloisons.
Ça appartient à qui finalement cet espace?
Ça appartient au propriétaire du portail gascon et de l'entrouvert, donc du restaurant.
Qui est juste à côté.
Voilà. Donc ils ont fait monter les murs comme on avait envie. Et en vrai, ça demande hyper de boulot de s'installer, de partir de zéro. En fait, il faut penser à tout, c'est-à-dire le matériel informatique, l'appareil pour passer les cartes vitales, l'appareil pour payer, le compte pro, les meubles, le matériel médical, le dasserie pour les déchets, tout ce qui est sang, pour les aiguilles quand on fait les vaccins. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, il faut penser. Et donc, c'est mon mari qui a tout géré. En gros, je lui ai dit, voilà, le cabinet de mes rêves, c'est ça. Et il a écouté tout ce que j'avais besoin. Les travaux dans le cabinet ont commencé en mars.
2025, de cette année.
2025. Et on a ouvert que le 30 juin. En réalité, on a ouvert les plannings. Alors, je ne sais plus exactement la date, mais je crois que c'était mi-juin. Dans la soirée, il y a des gens qui prenaient rendez-vous déjà. Alors qu'on n'avait pas du tout communiqué. On a juste cliqué sur un bouton en disant « Ok, on ouvre les plannings ». Mais c'était incroyable. En quelques jours, j'avais une semaine complète déjà. Donc je savais que c'était un désert médical. Ambroise, il se fait la malle, l'enfant. Viens là, mon cœur.
On va aller voir papa.
Oui.
Bon, là, c'est l'heure de rentrer à la maison, c'est ça?
Oui, pour la deuxième journée.
Ah oui, la deuxième journée qui commence avec la gestion des enfants. Les quatre.
Ouais.
Quatre enfants.
C'est ça. J'adore être maman. Et après, j'adore être médecin, mais être maman... On y va, chaton?
Ma docteur est décédée le 14 juillet des suites d'un cancer du foie. Et pour terminer, qu'on dise Disney, et faire ressortir une bande annonce pour son...
Arrivée chez le docteur, son conjoint, chez Coralie et Nicolas. C'est vraiment la campagne, hein, on est entouré de champs.
Tu veux une boule de feu?
Oui, boule de feu.
C'est sympa les photos là sur le frigo.
Je mets hyper de trucs de mes bébés dessus, j'adore.
Et là, c'est qui à côté de vous?
Ça, c'est la maîtresse de Léonard. C'est une de mes meilleures amies. On s'est rencontrés ici il y a 2 ans. Ça a été un coup de foudre amical.
Elle est dans quelle école alors? L'école du village?
Oui, à l'école Sainte-Anne. C'est l'école privée du village, il y a aussi l'école publique.
Il y a quand même 2 écoles, ce qui est bien.
Deux écoles plus la crèche.
S'il n'y avait pas d'accès aux écoles, on ne serait pas venu ici.
Parce qu'on savait que c'était un désert médical, j'avais de quoi bosser, ça c'est sûr. Mais quand on arrive avec une famille, et d'ailleurs pas que moi, hein, parce qu'il faut quand même un minimum de choses pour des jeunes qui s'installent. Donc il faut quand même qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des collèges, lycées pas trop loin. Des fois, c'est pas qu'on veut pas s'installer dans un désert médical, c'est que des fois, c'est compliqué. Quand on arrive avec notre famille, il faut que tout le monde puisse travailler. C'est comme moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici. avec mon mari, mais c'est parce que mon mari était en 100% télétravail. Il faut quand même pouvoir me suivre.
C'est depuis la Covid, en fait. Et moi, ça m'allait très bien.
Est-ce qu'il y a un espace de coworking dans le village ?
Alors, dans le village, il n'y en a pas. Mais l'idée m'a taraudée. Le problème, c'est qu'il faut le remplir.
C'est pas un secteur qui est trop développé,
ici, là. Ici, les gens travaillent soit dans les champs, soit vont bosser sur Agen, mais c'est pas valable pour tous les postes et c'est pas valable pour tout le monde non plus.
Allez, les gars, go, go, go!
À Feugarolles, la population vieillit. Vendredi 18 juillet, il y avait un enterrement dans l'un des quatre cimetières du village. Jean-François Garabos, le maire de Feugarolles, y était. Voulez-vous mettre un peu à l'ombre, peut-être un peu plus loin ? Là-bas, pour ne pas les déranger. La personne qui vient d'être enterrée ?
Oui.
Là, il y a toute la famille hein, qui
c'est
attend.
C'est un de mes meilleurs amis, oui.
Vous le connaissez bien ?
Très très bien, je dirais presque que c'est le père de mon demi-frère. Alors, je m'appelle Jean-François Garabos, je suis agriculteur et producteur exclusivement de fruits, et je suis aussi maire de mon village. Il y a une moyenne d'âge élevée ici, donc il y a des gens qui ont besoin de soins, et souvent de soins quotidiens. Et dernièrement, est venue s'installer sur le territoire de la commune une médecin. Pour moi, c'est bien sûr que c'est du pain béni, quoi, hein, c'est super.
Et alors, est-ce que vous avez pu l'aider pour l'installation ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mères qui aident.
Ça, c'était le top. Elle est arrivée, elle ne m'a pas sollicité. Elle s'est installée toute seule. Elle s'est rapprochée, bien entendu, des professionnels de santé. Hein. Très franchement, tant mieux. Hein. Comme ça, elle est libre, ses mouvements, c'est parfait. Et pareil pour moi. Donc, c'est très bien.
Est-ce que vous auriez eu le budget pour l'aider si elle avait fait appel à vous ?
Non, et je n'ai absolument pas la surface financière pour construire une maison de santé. Là, il faut envoyer des centaines de milliers d'euros. On est un département qui cumule les handicaps. On est pauvre et vieux. Ça génère des soucis qu'on n'aurait pas en première couronne parisienne, ça c'est clair. Parce que y a une désertification médicale, mais il y a une désertification industrielle. Il y avait des grosses industries métallurgiques qui ont fermé. À Vianne, petit village qui est à 5 km d'ici, il y avait une verrerie qui employait jusqu'à 1300 salariés qui a disparu. Donc c'est compliqué. La désindustrialisation, on la vit depuis quelques temps, avec tout ce que ça implique.
Voilà. Vous êtes allé voir la nouvelle médecin pour voir comment elle travaillait ?
Pas du tout. Elle ne m'a pas invité, donc si elle m'invite, j'irai. Mais pour l'instant, je n'ai pas été invité personnellement.
Bon, on l'entend, les relations du maire avec le docteur Coralie Juan González ne sont pas idylliques. Le mari de la docteur se présente aux prochaines élections municipales et le maire a beaucoup de mal à le digérer. C'est aussi ça, la vie dans les petits villages. C'est un tout petit monde. Les histoires relationnelles peuvent prendre beaucoup de place, un peu trop parfois. Allez, nous, on retourne au cabinet médical. Bonjour, pardon monsieur. Je travaille à la radio à France Inter et je fais un reportage justement sur le lieu ici, qui vient d'ouvrir.
Ouais. Moi je viens d'arriver, enfin, moi je suis pas originaire d'ici, moi je suis originaire d'Espiens. Je ne suis pas du village. Moi.
D'accord. C'est loin ou pas votre village ?
7 km.
Ça va encore ?
Oui, ça va.
Vous êtes avec vos parents ?
Oui.
Vous vous en occupez ?
Oui.
Vos parents vivent avec vous ou à Feugarolles ?
Oui, avec nous. Ils ont bien ensemble. Oui.
Ils habitent chez vous ?
Oui. Enfin, c'est moi qui habitais chez eux plutôt.
C'est vrai. C'est et vous avez quel âge ?
Moi, 61.
61 ?
61. Ouais.
Et vos parents ?
83, enfin, et 89. Oui, ça commence.
Et comment vous faisiez avant que le docteur s'installe ici ? Vous aviez un autre médecin traitant ?
Mon docteur à moi, il est à Barsac, c'est celui de mon ami. Qui est en Gironde, il est à 95 bornes.
95 km.
Ouais. On n'a pas de docteur, donc mon ancien, il a pris la retraite, donc on n'a plus de docteur. Plus personne ne nous prend, donc...
Donc là, vous allez venir ici, maintenant ?
On va finir par venir ici, oui. Pour mes parents en premier temps, puis après pour nous.
Mm-hmm. C'est 95 km.
Et puis il a 75 ans, notre docteur. C'est encore le docteur de famille de mon ami, et bien content de trouver... Parce que maintenant, vous n'avez personne, c'est le 15 ou...
Le SAMU ou...
Le SAMU, voilà, oui.
Ou rien.
Au début, il se faisait 6 mois qu'il ne s'est pas vu au docteur, donc puis il avait des problèmes de santé, donc évacué avec le 15, et puis voilà. Quoi.
Votre papa ?
Oui.
Pendant combien de temps, finalement, il est resté sans médecin traitant ?
Oh, mais l'année dernière, ils ont resté 6-7 mois.
Alors vous faisiez le 15 ?
On faisait le 15.
Pour votre maman aussi, elle a dû aller aux urgences ?
C'est la même chose.
Ils ont quoi comme problème de santé ?
Oh, ben, une stomie, puis lui, bon, il commence à avoir des problèmes de pneumonie, tout ça. avec des reflux gastriques et tout, et juste tension. Voilà. Je...
Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit suivi de près.
Il faut que ça suffise, oui.
Et vous, ça va la santé ?
Non, pas trop. Moi, j'étais opéré du cœur, j'étais opéré d'un anévrisme. Donc, pendant 2 ans, ça a été compliqué. Donc,
Et là, ça va mieux ? Bon, coup-ci, coup-ça.
Ça suffit, coup. C'est jamais comme avant, quoi.
Oui.
Ah, c'est pas évident, on est tous...
Quelle galère, hein ?
Ouais.
Le problème aussi, quand on attend trop avant de voir un médecin, c'est que la maladie peut se dégrader.
Voilà, c'est ça le problème.
Je vous ai pas demandé votre prénom ?
Joël.
Joël. Enchanté. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
À vous aussi. Bon, alors ça se passe où cette soirée en plein air ?
J'y suis jamais allée à cet endroit en vrai. Ah. Mais parce que moi je sors pas trop. Parce que je suis fatiguée aussi.
Et alors là on arrive sous une halle. Et il y a la projection qui va pas tarder à commencer. Il y a une centaine de personnes, je dirais, qui sont installées là sur des chaises, devant un écran géant.
Et là, ce soir, c'est...
Ce film, c'est quoi comme film ?
Un petit truc en plus. C'est vrai qu'il y a du monde, hein, dis donc. Mais ça ne m'étonne pas que ça marche. Parce que souvent, quand il y a des événements, en vrai, à Feugerolles, je trouve qu'il y a hyper de monde.
Il y a des personnes de tout âge, hein, des bébés, ouais. Des personnes âgées.
Ça va ?
Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment vous appelez, monsieur ?
Michel Duvernay. Feugerolles d'origine. Je suis président du club de foot.
Il y a un club de foot ici à Feugerolles ?
Bien sûr. Et une équipe féminine, à 11, qui a joué en Régional 2, très haut niveau. On va jusqu'à Bayonne, Pau, sur toute l'Aquitaine.
Moi, c'est vrai qu'en étant sur Agen, mes collègues m'en ont tous parlé. Ils m'ont dit, punaise, à Feugerolles, tu as une docteur, tu as une sage-femme. Je dis, bah oui, Feugerolles, ça se développe. Ça fait plaisir.
Vous êtes de Feugerolles ?
Oui, je suis une joueuse de foot, du coup.
Dans l'équipe féminine.
Exactement.
Voilà.
Il y a des pop-corns, c'est trop bien.
Ça va commencer, je crois.
Je pense. Je crois que le maire, il va dire un mot.
Comment tu vas ?
Ça va, merci d'être venu si nombreuses et si nombreux. Merci à vous d'être venu à Feugerolles, le village où on a un petit truc en plus. Bon film.
Il y a du monde.
Ouais, il y a du monde, ouais. Vous êtes content qu'il y ait du monde.
Mais plus que ça, même. Super.
Et bon film. Ouais.
Bon, on est en vacances, on est en vacances.
C'est un succès populaire d'Artus qui est projeté ce soir. Ça raconte l'histoire de jeunes adultes en situation de handicap qui partent en vacances. Tout le monde a l'air ravi et on entend régulièrement des rires sous la halle. Et voilà, générique de fin, tout le monde se lève. Il est minuit passé. Avec Coralie, on a prévu de se revoir dans un mois pour prendre de ses nouvelles. On verra si elle a mis les dernières touches à son cabinet et si elle n'est pas trop débordée par son emploi du temps. Allez, bonne nuit! Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir.
Chers voyageurs, dans quelques minutes, notre TGV Inouï desservira la gare d'Agen et votre descente s'effectuera à gauche dans le sens de la marche.
Alors, y a-t-il la pancarte ? Ça y était pas, il y a un mois. Infirmier à gauche, kinésithérapeute à gauche, sage-femme à droite, médecin à droite. Et la plaque ? Non, il n'y a pas la plaque. Il y a une plaque temporaire, on peut dire un papier, collé sur la porte, cabinet du docteur Erwin Gonzalez. Et donc il y a une flèche qui indique l'entrée sur la droite. Entrée sans frapper.
Bonjour.
Ah, surprise.
Comment ça va ?
Vous vous rappelez de moi ?
Bah, bien sûr, je me rappelle de vous. Et vous, vous vous rappelez de moi ?
Oui.
Bon, comment ça va ?
Ça me fait aller.
Je peux prendre votre prénom ?
Joël.
Joël Anaël. Votre cœur, ça va ?
Bien, ça se court, doucement, oui.
Et vos parents, comment ça va ? Ils sont revenus voir le docteur, je crois. Vous êtes revenus ?
On est revenus, oui, il n'y a pas longtemps. Donc, oui, bon, ça se maintient pour le moment, ça va.
Vous étiez venu la dernière fois, au mois de juillet, pour votre papa ?
Mais mon père, ça va mieux, oui, pour le moment, ça va mieux, oui.
Et vous, est-ce que vous consultez le docteur pour vous, puisque vous m'avez dit que vous aviez...
C'était pour moi, oui, pour dépanner, oui. J'ai fait une visite ou deux ici.
Et donc, vous avez passé l'été avec vos parents ici ou vous êtes parti un petit peu en vacances?
Ah non, je ne pars pas en vacances. Je suis quasiment jamais parti en vacances. Non, avec le boulot, on peut partir un dimanche, un truc comme ça. Avec le boulot, tout ça, non, je ne peux pas. Je suis agriculteur, donc je suis sur place. Et puis, je n'étais pas habitué à ça, donc je ne partais pas.
Et vous avez prévu de revoir le médecin prochainement?
Oui, j'ai des examens à faire, puis après, je vais revenir le voir, ouais.
Vous n'avez pas l'air inquiet pour le rendez-vous, en tout cas. Elle a des disponibilités
ou... Pour le moment, oui. Combien de temps, je ne sais pas, mais parce que ça va se saturer vite, bientôt. Ça commence à venir charger, non?
Ça commence à
se
charger,
oui. J'espère à toi, voilà.
Bon, bah, prenez bien soin de vous.
Ben, oui, si.
Voilà, là, le docteur est en consultation et ne devrait plus tarder à sortir. Ça va, Coralie? Comment ça s'est passé, alors, le mois de juillet? Comment ça va depuis un mois?
Ça va. On est quasi complète tous les jours.
Et ça va, vous arrivez pas à saturation?
Non, ça va. Elisa, elle arrive toujours à gérer les urgences. Moi, j'arrive toujours à répondre aux messages des patients. Après, je fais ça le soir. Alors, quand je rentre chez moi, une fois que je me suis occupée de mes enfants et tout...
Alors, vous n'êtes pas partie en vacances?
Non. Non, non, non. Je vais prendre un jour la semaine prochaine pour emmener mes enfants dans un parc d'attractions. Et après, 2 jours sur la période de Noël.
C'est loin.
Oui.
Et alors, j'ai pas vu la plaque.
Non, mais parce qu'elle arrive demain.
C'est pas vrai.
Elle est hyper en retard, la plaque, ouais. Ah. Elle arrive demain. Donc là, on est contente qu'elle arrive parce que les patients, ils avaient encore du mal à se repérer. Et donc ça va, en vrai, pour l'instant, ça va bien. Mais on travaille beaucoup, mais...
Et pas trop fatigué?
Un peu, là.
Et là, vous cherchez quelqu'un d'autre pour vous aider, un autre médecin?
Alors, je sais pas si c'est pour m'aider, mais c'est aussi pour les patients, surtout. Parce que je trouverais ça chouette. Il y a quelqu'un avec qui j'aimerais bosser et qui finit ses études bientôt. Mais je sais pas ce qu'il va faire, parce que c'est un projet de vie. Mais voilà, j'essaye d'être disponible pour mes patients et tout, mais je me suis quand même enlevé une certaine pression par rapport au fait que voilà, je peux pas être tout le temps là de toute façon. Je peux pas lutter contre le désert médical toute seule.
France Inter, Interception.
C'est Raqqa, l'autre destination de ce dimanche. Et quand on plonge dans nos mémoires de la guerre en Syrie, de Raqqa, nous avons tous les mêmes images en tête. Des djihadistes, armes au poing sur des pick-up lancés à pleine vitesse, et des femmes en noir, rasant les murs. Raqqa, au nord des rives de l'Euphrate, Daesh en avait fait sa capitale, et pendant 3 longues années, de 2014 à 2017, c'est d'ici que partaient les consignes d'attentats, notamment ceux de Paris. Mais aujourd'hui, la ville a été reprise. Bachar est tombé le 8 décembre 2024. La Syrie est désormais dirigée par Ahmed al-Shara, le chef du groupe islamiste HTS. Est-ce que tout cela rend Raqqa plus optimiste pour son avenir? Vous allez comprendre qu'on en est très loin, notamment pour les Kurdes, qui administrent la ville, mais craignent de subir le même sort que les Druzes et les Alaouites, cibles de massacres ces derniers mois. C'est Omar Waman et Benjamin Thuot que vous allez suivre au milieu de cet équilibre bien fragile.
On entre dans cette ville de Raqqa, au milieu des embouteillages, les destructions sont toujours visibles. On voit des immeubles éventrés, il y a des trous béants sur certaines façades, des maisons aplaties. Les habitants ont fait leur retour, mais beaucoup vivent toujours dans des logements endommagés. Les murs sont parfois couverts de trous, comme ici, autour de cette place Al-Nahim, que les habitants appelaient la place de l'enfer. Ici, sur ce rond-point, les djihadistes de Daesh pratiquaient des décapitations en public et exhibaient les têtes de leurs victimes plantées sur des pics, l'horreur absolue. C'est aussi sur cette place Al-Nahim que l'on a célébré la chute du régime de Bachar el-Assad, mais contrairement au reste du pays, ici à Raqqa, ça s'est mal passé. Ce soir-là, Maria était sur son balcon qui donne sur ce rond-point. Maria Al-Ajili, artiste, poète, féministe, militante des droits de l'homme. On va la rejoindre sur son balcon, au premier étage d'un immeuble criblé d'impacts de balles.
Ah.
Je vous en prie, allez, rentrez. J'étais là, c'était la fête. Une très grande fête. Les manifestants brandissaient le drapeau de la révolution, le nouveau drapeau syrien. Et puis soudain, des coups de feu ont éclaté. C'était des saboteurs qui s'étaient infiltrés. Ils ont décroché le drapeau des forces démocratiques syriennes. Ils l'ont piétiné. C'était terrifiant. Ensuite, les forces de sécurité sont intervenues pour rétablir l'ordre.
Maria, on s'est éloigné hein, du brouhaha, du vacarme, du balcon qui donne sur cette place Al-Naïm. Vous, en tant que femme, en tant que féministe, vous craignez pour vos libertés si cette région retourne dans le giron de Damas ?
Ce régime n'offre aucune liberté aux femmes. Il veut les réduire à des machines à procréer. Il veut les obliger à porter le voile ou l'abaya. Et si elles refusent, elles sont punies. Ce régime estime aussi que les femmes doivent rester à la maison jusqu'à leur mort. Il ne voit en elles que des créatures impures. C'est une chance, une grande chance de vivre sous cette administration autonome. Parce qu'ici, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Donc, bien sûr que j'ai peur que le cauchemar revienne. J'ai toujours refusé de quitter la Syrie. Mais si je devais fuir, ça voudrait vraiment dire que la Syrie n'est plus la Syrie.
La peur des islamistes qui ont pris le pouvoir à Damas est aussi palpable au sein de la communauté kurde, ultra minoritaire ici à Raqqa. Des Kurdes qui vivent dans l'angoisse, certains ont même été menacés directement, comme Mohamed Derwish, un homme d'affaires qui vit la plupart du temps cloîtré chez lui.
Bonjour.
Lorsque l'ancien régime s'est effondré et que le nouveau a pris le pouvoir, des membres de la communauté arabe sont venus me voir ici, chez moi. J'ai cru qu'ils allaient nous dévorer. Ils m'ont dit « il faut partir ». C'était un message pour nous dire que les Kurdes sont désormais en danger à Raqqa. Je vis ici depuis plus de 40 ans, j'ai investi ici, j'ai des biens, des propriétés, et je vais devoir tout laisser derrière moi. En tant que civil, je suis obligé de me faire à l'idée que je vais devoir partir un jour. Mais les militaires, eux, vont résister. Je vais vous dire la vérité. Toute la communauté kurde vit dans l'angoisse.
Vous n'avez pas d'avenir dans la région sous l'administration d'HTS ?
Non, jamais. Nous n'avons aucun avenir avec HTS.
Et pour nous aider à comprendre, à mesurer le danger qui pèse sur cette ville de Raqqa, nous sommes avec Mohamed Hassan, un journaliste très en vue ici. Qu'est-ce qui a changé depuis la chute du régime de Bachar el-Assad ?
Personnellement, je ne sens pas que les choses ont beaucoup changé. Car ce que nous voyons avec ce nouveau régime syrien, c'est la même mentalité. Les droits des Kurdes et des autres minorités sont bafoués. En fait, ils veulent une Syrie de la même couleur. En seulement 8 mois, ce nouveau régime syrien a commis de nombreux massacres et il recommencera à coup sûr. Contre qui ? Je ne sais pas. Peut-être contre les Kurdes. Ce que je sais, c'est qu'ils sont prêts à tous les scénarios. Si HTS les attaque, ils se battront jusqu'à leur dernier souffle.
Et pour se protéger de leurs ennemis, et notamment de la Turquie voisine qui soutient le nouveau pouvoir à Damas, les Kurdes peuvent compter sur les FDS, les Forces démocratiques syriennes. C'est une alliance militaire créée pour lutter contre Daesh en 2015, coalition où tous les groupes ethniques et religieux sont représentés. Nous nous dirigeons vers une base militaire entourée de positions qui ont été renforcées, où nous attend une patrouille avec laquelle nous allons circuler dans cette ville de Raqqa. Celui qui donne des ordres à des combattants relativement jeunes, c'est Adnan, 53 ans, de la ville de Hasake, qui a connu toutes les batailles de ces dernières années et qui, aujourd'hui, regarde avec beaucoup d'inquiétude ce qui est en train de se préparer. Vous avez, Adnan, creusé des tranchées autour de cette base militaire aux abords de Raqqa.
C'est pour nous protéger des drones et des attaques aériennes.
Ces gens qui ont pris le pouvoir à Damas le 8 décembre dernier, vous les avez combattus, vous les connaissez bien.
Oui, on les a affrontés plusieurs fois, notamment à Alep. C'était tout le temps la guerre avec eux.
Et toutes ces armes, tous ces véhicules blindés, tous ces chars, vous allez les transférer aux nouvelles autorités à Damas?
Non. Elles nous sont indispensables. On en a besoin pour se protéger de nos ennemis. Ces armes symbolisent le sang de nos martyrs. On les a prises à Daesh, sur le champ de bataille. D'autres nous ont été fournies par la coalition anti-djihadiste. On ne peut pas les transférer, sinon ça signifierait que le sang de nos martyrs a coulé pour rien. C'est notre assurance vie. Elles sont aussi là pour garantir la sécurité de nos camarades.
En place dans ce blindé. Les combattants autour de nous mettent des cagoules, casques sur leur tête. Et à la tête de cette petite patrouille composée de 3 blindés, il y a Walat, 37 ans, en tenue militaire, mais avec le foulard kurde sur la tête.
Tous les camarades autour de moi sont kurdes, arabes ou chrétiens. Nous représentons toutes les communautés.
Les gens que vous croisez là, ils sont majoritairement arabes. Dans leur regard, qu'est-ce que vous voyez?
Ça dépend. Je vois que certains nous aiment et nous acceptent. D'autres, en revanche, sont hostiles. Ils nous en veulent, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est à nous de savoir pourquoi. Mais il faut savoir qu'ici, il y a des cellules dormantes. Nous les traquons et nous faisons tout pour les arrêter. Ce sont des mercenaires qui veulent chasser les forces démocratiques syriennes. Et nous constatons que le nombre de ces cellules dormantes a augmenté. Leurs membres se cachent, ils vivent dans la clandestinité, mais nous savons qu'ils sont soutenus par HTS et Daesh. Quand les conditions seront réunies, ils frapperont. Mais on ne les laissera pas faire.
Et là, on passe devant le stade municipal de Raqqa, ce fameux stade qui fut durant les années d'occupation par Daesh, un immense centre de torture et également une prison. Ce stade porte encore les traces de la guerre, mais des rencontres de football s'y déroulent. On va s'arrêter quelques minutes pour aller voir ce stade de sinistre mémoire pour les Raqqaouis.
J'ai déjà joué ici avec mon équipe de Kobané. La dernière fois, c'était le 8 août dernier. J'étais si content de fouler à nouveau cette pelouse. J'ai vu que les spectateurs étaient fiers de moi. Avant, on le surnommait le Stade Noir. Et aujourd'hui, c'est redevenu un lieu où on s'amuse.
Et
On quitte cette patrouille qui suscite ici de la crainte et même du rejet parmi les habitants, majoritairement arabes, car ces forces démocratiques syriennes représentent cette administration autonome dominée par les Kurdes qu'ils perçoivent comme une force d'occupation. Une grande partie de ces Rakaouis se sent marginalisée, discriminée parce que arabe et suspectée d'être proche des thèses djihadistes. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais ils refusent de l'exprimer au micro par peur des représailles. Ils reprochent également la lenteur de la reconstruction. Direction désormais un camp d'entraînement isolé, dans une enceinte à l'abri des regards. Derrière une grande porte métallique s'entraînent des femmes en treillis militaire. Elles sont jeunes, moins de 25 ans. Maniement des armes, séance de tir, elles font partie des unités de protection de la femme, les YPG, milices composées uniquement de femmes, majoritairement kurdes, mais il y a également des arabes. Et elles combattent toutes au sein des FDS. Nous avons rendez-vous avec leur chef, la commandante Nawrouz Ahmed, une personnalité ici dans la région. Elle dirige plus de 4000 femmes prêtes au combat.
Merci beaucoup de nous accueillir.
Pour Nawrouz Ahmed, la menace a un visage, celui d'Abu Atem al-Shakra, un homme qui a été nommé par le nouveau pouvoir à la tête de la 86e division de la nouvelle armée syrienne. Une division qui opère dans la province de Raqqa, pas loin d'ici. Abu Atem al-Shakra, réputé très violent, est accusé d'avoir sauvagement assassiné une figure politique kurde, Avrin Khalaf. C'était en octobre 2019, une scène filmée d'une très grande cruauté partagée sur les réseaux sociaux.
Cet homme a participé à ce meurtre. Nous avons des preuves matérielles, notamment des vidéos. Nous demandons à ce qu'il soit traduit en justice, ici, dans la région et en public. Nous n'accepterons jamais cette nomination et celle de ses complices. Nous demandons à ce qu'il soit remplacé. C'est notre condition avant toute chose. Ça fait partie des négociations, mais je pense que ça prendra du temps.
Ces chefs de division nommés par le nouveau pouvoir, est-ce qu'ils préparent la guerre contre vous ?
Nous avons des informations qui vont dans ce sens. Actuellement, ils mènent des opérations pour déstabiliser la région. Ils ont aussi acheminé des renforts qu'ils ont positionnés près de nos bases. Ils construisent également des fortifications. Tous ces signes indiquent qu'ils se préparent à la guerre. Nous savons aussi qu'ils ont commencé à nouer des contacts avec des habitants de la ville. Leur objectif est de les organiser et de les retourner contre nous. Il ne s'agit pas seulement de nous déstabiliser, mais clairement de nous affronter. Dans ce contexte, pourquoi devrions-nous rendre nos armes ? Elles sont là pour nous protéger. Nous sommes indissociables, nous ne faisons qu'un. On ne veut pas être dissous dans l'armée nationale. Ce que l'on veut, c'est constituer une unité structurée avec nos armes. Donc, on ne les rendra pas. On a vu ce qui s'est récemment passé. C'est le résultat d'une armée incontrôlable, incapable de protéger les civils. Pour nous, il est hors de question de transférer nos équipements militaires dans ce climat.
Il y a un lieu à Raqqa qui symbolise la coexistence entre les différentes communautés, le partage entre les cultures, et c'est aussi un espace de rencontre, c'est le centre culturel, fréquenté par un public parfois très jeune, mixte, pour y apprendre la musique, le théâtre ou encore la danse. Tout ce qui était interdit sous Daesh.
C'était impossible, inimaginable, sous Daesh. On ne pouvait pas jouer de la musique, ni chanter. C'était la religion, uniquement la religion et le Coran. C'est tout.
Talat al-Hassan, 42 ans, professeur de musique, a vécu 6 mois sous l'occupation du groupe État islamique.
Parfois, je jouais chez moi, en cachette.
Mais un jour, ils m'ont entendu jouer, ils sont venus et ils ont cassé mon instrument. J'ai été emprisonné pendant 2 jours. C'était une période difficile. Car pour moi, jouer et composer de la musique, c'est toute ma vie.
Que pensez-vous de l'arrivée au pouvoir de HTS en décembre dernier ?
Je ressens de la colère, de l'injustice. C'est un retour à l'époque de Daesh. Avec eux, il n'y aura plus de liberté, plus rien. Moi, j'ai passé les 14 dernières années à Hama, où j'ai vécu de ma musique et de mon art. Et lorsque le régime est tombé, j'ai passé 20 jours sous le contrôle des islamistes. Je sais que je ne peux pas vivre avec eux. Je suis donc revenu ici pour travailler dans ce centre culturel. Si les Kurdes partent et que la nouvelle armée syrienne arrive avec leurs différents groupes armés, il y aura des combats, c'est sûr. J'ai vu les crimes qu'ils ont commis à Ceuta et sur la côte. J'espère que ces massacres ne se répéteront pas ici, dans la région de Raqqa. En tout cas, moi, je ne veux plus fuir. Je resterai ici, quoi qu'il advienne. Ça suffit.
Interception, l'émission de reportage de France Inter, est produite par Xavier Yvon. À la réalisation, Lucie Lemarchand. La chargée de programme s'appelle Martine Messonnier. Le mixage était assuré par Corentin Rouchy et Laurent Baudouin. On se retrouve la semaine prochaine.